Chapitre 32. Vera perçut le déclic du magnétophone qu'André mit en route à l'autre bout de la ligne. Puis la voix du gendarme, plus grave que celle de son ami, qui lisait la page 65 des recluses.
Le long de l'étang en forme de cacahuète. C'était un endroit qui, l'été, devait être très lumineux, avec des reflets dansants sur l'étendue d'un verre bouteille. Mais l'hiver, il devenait une zone sans vie, dangereuse à cause de la neige et de la glace qui pouvaient dissimuler la surface liquide et vous précipiter dans une eau si froide qu'elle vous tuerait en quelques minutes. Cet endroit sentait la mort. Aussi, je progressais avec beaucoup de prudence. Depuis ce qui était arrivé à ma fille, l'eau me faisait peur. Je repérais la présence des berges par leur dénivelé et les longeais, m'éloignant toujours plus de mon refuge. J'étais désormais proche du chalet d'un vieux chasseur. J'avais déjà dû marcher plusieurs heures. Les basses températures ralentissaient le moindre de mes gestes, rendaient mes muscles douloureux. Mais il était important que je me laisse guider par mon intuition. Enfin, la hutte m'apparut sur l'autre rive, dressée sur ses grandes jambes de bois, avec ses petites fenêtres carrées qui offraient une vue à 360 degrés sur les environs. Un détour s'imposait. Ce que je découvrirais sur place me conduirait sans doute vers ce que j'avais toujours essayé de fuir, la vérité.
Nouveau déclic.
Alors, qu'est-ce que t'en penses ?
Lâcha André. Vera était sous le choc. Elle mit quelques secondes avant de répondre. Elle parle de moi, de ma phobie de l'eau. Ça veut dire qu'elle sait pour Émilie. Elle me connaît par cœur. Celle qui évolue dans la neige, qui se dirige vers l'étang, ce n'est pas elle, c'est moi. Je suis le personnage principal de son roman. Vera fixa la photo de sa fille avec angoisse. Depuis ce qui était arrivé à ma fille, l'eau me faisait peur. L'évocation de ses souvenirs agissait comme une lame de couteau qu'on aurait enfoncée lentement dans ses tripes. Les images affluèrent. Elle se vit assise sur sa serviette de plage, ne quittant pas des yeux Émilie qui jouait dans l'herbe, juste à côté d'un ponton en bois. Le soleil à la verticale, le ciel sans nuages, l'insouciance d'une magnifique journée d'été. Puis, soudain, ce gamin de 7-8 ans qui avait surgi des pins derrière elle, en pleurs parce qu'il avait perdu son chien, un cocker blanc et noir. Vera l'avait consolé. L'animal ne pouvait pas être loin. Il allait finir par le retrouver. Une fois l'enfant parti, elle s'était retournée. Le corps d'Émilie flottait déjà au bout du ponton quand elle s'était jetée dans l'eau en hurlant son prénom. Elle secoua la tête lorsque la radio grésilla.
« Et pour l'étang en forme de cacahuète, le chalet du vieux chasseur, la hutte ?»
demanda André.
« Tout ça, c'est à un quart d'heure de chez moi. Moi aussi, je suis dans son histoire. »
Vera voyait à quoi il faisait référence, car il lui avait fait visiter le coin l'été précédent. « Je ne comprends pas comment elle est au courant, » fit-elle.
« Et moi, je ne vois qu'une explication. Elle est venue ici avant de commencer à écrire ses pages. C'est aussi simple que ça. Elle a dû nous observer, faire des recherches. Elle a omis de te le préciser, je suppose. »
« En effet, elle a fait comme si tout cet environnement lui était inconnu. Mais quand se serait-elle baladée dans les parages et pourquoi ?»«
Va savoir. »«
Tu peux me repasser l'enregistrement ?» Il s'exécuta, et Vera se concentra encore plus lors de cette nouvelle écoute. « La hutte, pourquoi elle l'évoque ?» dit-elle ensuite. « À ton avis, il y a quelque chose à découvrir là-bas ? » ?»«
Non, il n'y a rien hormis mon fauteuil et du matériel que je laisse sur place, comme des gibecières, des couvertures. Tu me promets que tu vas faire gaffe jusqu'à demain, Vera. Vu la tempête, tu ne crains rien de cet éventuel rôdeur. Mais c'est de l'intérieur que le danger risque d'arriver. Continue à jouer le jeu avec cette folle tant que je serai pas là. Et si tu vois que ça dégénère, tu me rappelles. Je ferai envoyer les gendarmes à n'importe quelle heure. Je vais veiller près de ma civi, ok ? Surtout, tu n'hésites pas.
D'accord. Merci, André. Elle raccrocha et se rendit compte que ses mains tremblaient. Sa nuit virait au cauchemar. Pourquoi Sophie n'avait-elle pas signalé qu'elle était déjà venue ? Que lui cachait-elle encore ? Et que renfermaient les autres pages de son étrange manuscrit ? Au moment où elle s'extirpa de ses pensées, Elle s'aperçut qu'elle était enveloppée par l'obscurité. Les dernières braises s'éteignaient. Elle avait oublié d'alimenter le feu. Toute cette histoire la perturbait tellement. Elle se leva, puisa une bûche dans le panier près du poêle et la glissa dans l'âtre avant de fixer le tisonnier en fer. Elle s'empara finalement de ce dernier, juste au cas où. Quand elle se retourna, elle crut que son cœur allait lâcher. Sophie se tenait debout, raide comme un piquet, devant la porte de sa chambre grande ouverte.